11h30, vous écoutez RCF Loiret. De suite, on va retrouver Sophie Deschamps, Agora. Le thème aujourd'hui, la Catalogne et les événements qui se passent du côté de l'Espagne. Bonjour Sophie.
Bonjour Waïd. Donc Agora en partenariat avec Maxentre. Et c'est Christian Bidot qui est aujourd'hui au micro. Bonjour Christian.
Bonjour Sophie.
Et notre invité est François Saragossa, franco-espagnol d'origine catalane, président du mouvement européen du Loiret. François Saragossa, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour Christian.
Alors nous allons évoquer avec vous la situation bien sûr de la Catalogne qui atteint actuellement son paroxysme avec la mise en détention de 8 ministres catalans et la fuite en Belgique il y a quelques jours du président de l'éphémère République de Catalogne, Carles Puigdemont. Mais tout de suite, quelques repères pour nos auditeurs parce que c'est une situation complexe. Alors tout est parti le 1er octobre de la tenue d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, région autonome d'Espagne. Refus de Madrid qui empêche et annule le vote. Malgré cela, après plusieurs semaines de provocations, on va dire, de part et d'autre, le 29 octobre, le gouvernement catalan prononce l'indépendance de la Catalogne, vous nuancerez, annulé le jour même par Madrid, qui destitue dans la foulée le président de la Catalogne, donc Carles Puigdemont, et place la région sous tutelle, comme le permet l'article 155 de la Constitution espagnole. Une région administrée depuis par la numéro 2 du gouvernement Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, au moins jusqu'au 21 décembre, puisqu'il y aura la tenue de nouvelles élections régionales. Le 2 novembre, donc hier, c'est tout frais, la justice espagnole a placé en détention provisoire, je le disais, 8 des 14 membres du gouvernement catalan pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion. Et pour ces deux derniers délits, ils encourent 15 à 30 ans de prison. C'est énorme. Dernier rebondissement, l'émission dans la journée d'un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Carles Puigdemont et des quatre ministres réfugiés donc à Bruxelles depuis le 31 octobre. Voilà, vraiment en résumé en quelques lignes la situation catalane. Vous allez nous expliquer tout ça et Christian Bidot, je vous laisse poser la première question.
Oui, François Saragossa, finalement, Madrid a été relativement à droite. Je veux dire, le gouvernement Rajoy a bien joué le coup en réagissant immédiatement à la déclaration d'indépendance des Catalans, enfin de Puigdemont. Et finalement, est-ce qu'en Espagne, le gouvernement Rajoy a un consensus autour de lui ?
Alors écoute, il y a un consensus qui s'appelle l'arc constitutionnel. Oui. Qui est constitué du Parti populaire, qui gouverne actuellement, du Parti socialiste ouvrier espagnol, qui est dans l'opposition, mais qui respecte la constitution de 1978, et du Parti centriste, mais qui est sur le plan de la relation entre l'État central et la Catalogne, qui est très, très madrilène, on va dire, un parti centriste, mais très madrilène, c'est comme ça qu'il est qualifié en Catalogne, de ciudadanos, de citoyens.
Donc ça veut dire qu'il y a finalement un gouvernement espagnol qui est en train d'isoler le mouvement indépendantiste. La preuve, c'est que le Puigdemont est réfugié, entre guillemets, à Bruxelles.
Alors, je ne sais pas s'il l'isole. En tout cas, à mon avis, il est en train de le renforcer.
Ah bon ?
Il est en train de renforcer le mouvement. Oui, écoutez, lorsque... vous savez, l'opinion publique est toujours du côté des victimes. Et là, les indépendantistes ont très bien joué depuis toujours. Ils ont joué ce qu'on appelle en Catalogne ou en Espagne el victimismo, le victimisme. Et ça marche. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs, ça marche tellement qu'ils réussissent, les indépendantistes, à mettre assez facilement dans la rue 2 millions à 2 millions et demi de personnes. Et je pense qu'une grande manifestation qui est organisée pour le 12 novembre, à Barcelone, va réunir probablement près de 3 millions de personnes. C'est facile de réunir les gens, vous savez, c'est facile de réunir la foule. C'est plus difficile de réunir les citoyens autour d'une idée.
Oui, mais il y a eu une manifestation justement d'anti-indépendantistes qui était importante aussi dans les rues de Barcelone.
Alors, cette manifestation était importante. Sur le plan numérique, une participation moindre que celle des indépendantistes parce qu'elle a été montée rapidement. Et puis, il n'y a pas de coalition anti-indépendantiste. Les anti-indépendantistes sont très divers. C'est une petite majorité très plurielle. dans lequel on retrouve d'ailleurs des socialistes, des gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche. Hein. Et puis aussi, toutes ces manifestations sont difficiles à contrôler. Et ce que l'on voit le plus, ce sont, eh bien, écoutez, des petits groupes de fascistes, appelons-les comme ça. Hein.
Là, vous parlez uniquement de la Catalogne.
Je parle uniquement de la Catalogne.
Mais ces élections régionales du 21 décembre, est-ce que ce n'est pas finalement la solution finale qui va régler l'affaire? On va voir là le rapport de force entre les indépendantistes et les anti-indépendantistes.
Écoutez, elle était bien engagée et comme solution, elle aurait été beaucoup mieux engagée si l'ex-président de la Generalitat, Carles Puigdemont, avait eu le courage lui-même de dissoudre le Parlement, ce qu'il n'a pas fait.
Oui.
Il a préféré fuir à Bruxelles. Ridicule de la situation si la situation n'était pas aussi tragi-comique. Bon, moi, je me souviens avoir appris en histoire de France la fuite de Boulanger à Bruxelles aussi. J'ai immédiatement pensé à ça.
Mais il est pour ces élections. Il les accepte plus de monde alors qu'elles risquent de lui être défavorables.
Et c'est là la contradiction du personnage. Il est pour l'indépendance de la Catalogne. Il le réaffirme avec force, mais d'ailleurs, je crois que depuis qu'il est né, hein, il ne faut pas oublier qu'il a été un des fondateurs de la jeunesse nationaliste de Catalogne, le parti de Pujol. Vous pouvez imaginer, donc il devait avoir dans les 16 ou 17 ans. C'est un monsieur d'ailleurs qui, professionnellement, est un indépendantiste. Hein, il n'a fait que ça dans sa vie.
Un professionnel de l'indépendance.
C'est un professionnel de l'indépendance et il le prouve, puisque maintenant il est tellement indépendant qu'il est indépendant de l'Espagne, indépendant de la Catalogne, il est dépendant de lui-même et d'une petite camarilla qui est autour de lui.
Oui, là,
alors, il aurait été mieux inspiré.
Il y a un petit peu d'ironie, bien sûr, il y a un petit peu d'ironie là dans votre ton.
Il y a beaucoup d'ironie. Vous savez, il restera dans l'histoire comme ayant été le plus mauvais président de la Generalitat qu'il y a eu en Catalogne et il était le 130e du nom.
Donc, comme dit Christian, est-ce que ces élections, justement, vont résoudre la situation?
Qu'est-ce qu'on peut imaginer, c'est que Puigdemont soit battu, quand même.
Écoutez, moi, je crains que l'objectif qui avait été fixé en décrétant ces élections, parce que l'élection du 21 décembre, c'était une des conclusions de la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution qui, supprimait l'autonomie de Catalogne, mais la suspendait, hein, et suspendait en tout cas les responsables politiques de la Catalogne. Donc elle aurait été bien engagée, on aurait pu imaginer que c'était une solution, non pas la solution finale comme vous avez dit Christian Bideau, mais une solution démocratique, mais je crains qu'avec les derniers événements, l'esprit des élections et le contexte dans lequel vont se dérouler ces élections soit complètement faussé.
Parce qu'expliquez-nous, ce Parlement qui va être élu le 21 décembre, c'est lui qui va élire les gouvernants de la Catalogne, c'est-à-dire un nouveau président en remplacement de Puigdemont, admettons, si ce n'est pas lui qui l'emporte. Donc on va changer complètement de gouvernance à ce moment-là.
Alors écoute, moi je voudrais revenir quand même sur la contradiction du personnage Puigdemont.
Ouais.
Donc il déclare l'indépendance de la Catalogne, mais sans la déclarer tout en la déclarant, parce que j'ai toujours pas compris. D'ailleurs, il a à aucun moment il a déclaré l'indépendance de la Catalogne. Si vous me permettez, passé la patate chaude à la présidente du Parlement. Hein, c'est elle, finalement, Carme Forcadell, qui a déclaré. Hein.
Pas très courageux.
C'est un homme probablement courageux, mais écoutez, on a le courage qu'on peut. Hein. Il repousse pour le territoire de la Catalogne l'autorité de Madrid, mais il accepte la proposition de Madrid qui est d'organiser des élections autonomiques, pas des élections référendaires ou des élections plébiscitaires. Hein. Alors que dans son esprit, ce qu'il voulait, c'était élire un parlement constituant pour la Catalogne.
Une nouvelle République.
Oui, ça va être toujours à la case zéro, en fait.
Voilà, on est toujours à la case zéro. On est toujours à la case zéro.
Mais est-ce que la Catalogne reviendra à son état antérieur d'autonomie après le 21 décembre ou pas? C'est la question qu'on peut se poser également aujourd'hui.
Écoutez, le Rajoy a été très habile dans cette affaire. Puigdemont a cru s'adresser à Henri Queuil. Vous savez, Henri Queuil, c'était un président du Conseil qui disait « Il n'y a pas de problème auquel l'absence de réponse n'apporte de solution ». Monsieur Rajoy a souvent traîné.
Hein, c'est un sujet pour le bac de philo, ça.
Et finalement, c'était pas Queuil que Puigdemont a eu en face, mais ça a été Guderian, le blitzkrieg. Il a fait ça très rapidement et il a dit en fixant la date des élections le 21 décembre, c'est la date la plus rapprochée qu'il pouvait le faire légalement. Et il a dit, ben voilà, à partir du 21 décembre, nouveau Parlement, donc, et la généralité de Catalogne, et la Catalogne est rétablie dans ses droits constitutionnels, qui sont ceux...
Elle va retrouver tous ses droits, la Catalogne.
Ben de l'autonomie, celle qui régisse actuellement la relation entre l'État central, l'Espagne, alors, et la Catalogne.
Alors justement, François Sarrosa, pour bien expliquer à nos auditeurs, je voudrais qu'on revienne sur ce statut d'autonomie qui est quand même important. Je veux dire, la Catalogne est pratiquement une région indépendante. Quels sont les pouvoirs qu'elle n'a pas aujourd'hui, enfin, qu'elle n'avait pas hier dans sa constitution?
Alors, elle n'a pas le pouvoir de frapper la monnaie, ce qui est normal,
bon.
Puisqu'elle est... Elle est partie intégrante de l'Espagne. Non, si, il y a de la monnaie. Est partie intégrante de l'Espagne, et la monnaie espagnole, c'est l'euro.
Voilà, bon. Donc il n'y a pas de monnaie.
Elle n'a pas de compétences en matière de relations étrangères.
Néanmoins,
en matière d'affaires étrangères.
Elle a néanmoins des ambassades, enfin des représentations.
Alors c'était des représentations, oui. Et ça a été un grand débat entre l'État central et la Catalogne, à tel point que le gouvernement précédent à celui de M. Puigdemont, le gouvernement d'Artur Mas, avait dû revenir sur l'intitulé « ambassade ». Et l'avait appelé délégation extérieure. De même que le conseiller...
Je vous coupe, mais les régions françaises ont aussi des représentations à Bruxelles.
Des bureaux de représentation.
Ce ne sont pas des ambassades. Alors,
la Catalogne ne peut pas lever l'impôt.
Alors la Catalogne ne lève...
C'est important.
La Catalogne ne lève pas l'impôt. Et là, c'est le débat fiscal qui existe en Catalogne. Puisque pour bien comprendre la situation, pour essayer d'en comprendre un peu, la régionalisation espagnole est une régionalisation à géométrie très variable. Aucune communauté autonome, il y en a 17,
n'a les mêmes compétences.
Voilà. Ce sont des compétences qui ont été négociées à partir de 1978 entre les représentants élus de la région et le gouvernement central.
Mais quand même, la Catalogne est une des régions qui en a le plus de compétences.
Elle fait partie des trois communautés historiques, qu'on appelle en Espagne les trois communautés historiques, la Catalogne, le Pays Basque et la Galice.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut de plus?
Aujourd'hui, les indépendantistes veulent l'indépendance. Aujourd'hui, ils sont dans cette bulle de l'indépendance qui est un monde parallèle, finalement.
Ne plus dépendre du tout de Madrid.
Parce que la joie nous fait vivre.
RCF, la joie se partage.
Vous écoutez Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Max Centre et la présence aujourd'hui de Christian Bidot. Et nous parlons de la crise catalane avec François Sarrosa, franco-espagnol d'origine catalane et président du mouvement européen du Loiret. François Sarrosa, vous qui êtes catalan, aujourd'hui vous êtes quoi? Désespéré ou malgré tout optimiste sur la situation de votre région, la Catalogne?
Je suis surtout très triste. Je suis très triste qu'on soit arrivé à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec des violences qui ont eu lieu lors du référendum illégal du 1er octobre.
Envers les gens qui allaient voter.
Il n'y a pas de nationalité catalane. Il y a une citoyenneté espagnole, point final. Il n'y a pas de citoyenneté catalane. Donc envers des gens qui...
Il y a une identité quand même.
Oui, mais identité n'est pas citoyenneté. Donc il y a eu ces violences policières. Moi qui suis fils de réfugiés, on fait vite l'assimilation antifranquiste. Mes parents étaient antifranquistes. On fait vite l'assimilation entre la guerre civile d'aujourd'hui et la guerre civile des années 39 et de la post-guerre, comme on a appelé en Espagne.
Et c'est justifié, ça ?
Les charges policières contre des citoyens qui allaient voter sont inadmissibles dans une démocratie. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et puis je suis très triste que des citoyens en Catalogne soient aujourd'hui emprisonnés. Ils sont emprisonnés, mais ils sont emprisonnés dans le cadre d'une décision qui a été prise par le juge de l'audience nationale, c'est-à-dire de la Cour suprême en Espagne, sur la plainte qui avait été déposée et qui avait été instruite par un procureur. On est dans un état de droit en Espagne. Cela peut nous paraître surprenant. Moi, j'entends des gens nous dire l'État espagnol ne respecte pas le droit. Il respecte le droit qui est en vigueur en Espagne.
Alors pour revenir un petit peu sur l'histoire, donc ce statut d'autonomie avait failli être modifié il y a quelques années sous un gouvernement de gauche en Espagne. Et pourquoi n'est-ce pas passé ?
Alors il n'avait pas failli, il avait été modifié. Oui. Hein, puisque si les statuts d'autonomie ont été mis en place au lendemain du retour de la démocratie et après, et dans le cadre de la Constitution de 78, naturellement, la Constitution prévoyait aménagement. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, les statuts des différentes communautés autonomes ont été aménagés, modifiés. C'est comme ça que, d'ailleurs, pour prendre l'exemple de la Catalogne, la Catalogne a pu créer une police régionale qui existait historiquement, mais qui avait disparu pendant le franquisme, naturellement, qui avait été supprimée pendant le franquisme, avait restauré Los Mossos d'Esquadra et en avait la responsabilité politique.
Hein, et ce justement, est-ce qu'elle va la garder, sa police régionale, la Catalogne, puisque là, on a vu que Madrid a dû envoyer des renforts.
Non, Madrid a envoyé des renforts pour assurer l'ordre public, puisque Los Mossos d'Esquadra n'y arrivait pas.
Oui. Hein, ce qui prouve quand même le degré d'autonomie, d'avoir sa police, on imagine, une police en région Centre-Val-de-Loire.
Il n'y en a que deux en Espagne, deux communautés autonomes qui ont de la police régionale chargée du maintien de l'ordre. C'est le Pays Basque, l'Ertzaintza, et avec c'est le nom en basque, et la police Los Mossos d'Esquadra en Catalogne. Et puis il y a une troisième communauté autonome qui a également sa police régionale, c'est la Navarre. Hein, si vous allez à Pamplonne pendant les encierros, vous savez, on voit la police régionale. Et dans les autres communautés autonomes, il n'y a pas de police.
Alors Madrid va exiger la loyauté de la police régionale, puisqu'on a vu que les hauts responsables, eux, ont été limogés.
Madrid a destitué le principal responsable de la police régionale et en le jour de sa destitution, M. Trapero, puisqu'il s'agit de lui, a demandé aux 17 000 hommes qui composent Los Mossos d'Esquadra d'être loyal à l'égard de la nouvelle autorité qui est aujourd'hui le gouvernement de Madrid.
Alors l'idée, c'est l'indépendance, donc vous l'avez bien dit. Pourquoi finalement, au fond, la Catalogne, enfin les indépendantistes catalans veulent-ils cette indépendance? C'est par égoïsme, c'est parce que c'est la région la plus dynamique d'Espagne et qu'elle refuse de payer pour les plus pauvres. C'est bien ça quand même qui se passe?
Moi, je refuse cette hypothèse. Je la refuse. Je la refuse
c'est
parce que.
C'est une des composantes.
Mais c'est pas seulement culturel, François Saragossa. Aujourd'hui, ils sont autonomes, ils peuvent parler catalan. Qu'est-ce qui leur manque?
Écoutez, il faut savoir ce qu'est cette majorité qui est une faible, très faible majorité indépendantiste en Catalogne et quelles sont ses composantes. C'est un équipage très hétéroclite.
L'alliance de la carpe et du lapin, comme on dit.
Oui, donc
si vous le voulez. Alors, très fragile.
Très fragile. Ouais.
Revenons pas si longtemps en arrière. Mais à l'époque où le sentiment de catalanité, catalanolanité, c'est un mot un peu difficile à dire, mais ce sentiment était défendu et porté uniquement par une formation de centre-droit, la formation de M. Pujol, qui s'était complètement identifié à la Catalogne, puis de son successeur, Artur Mas. Mais ces partis, comme de très nombreux partis espagnols d'ailleurs, est un parti corrompu. Chacun connaît l'épisode de la famille Pujol et les relations qu'elle entretient, cette famille, avec certaines banques à Andorre. Tout le monde connaît le surnom de M. Artur Mas, le prédécesseur de Puigdemont, qui était M. 3%. On peut en parler très longuement, mais c'est déjà assez évocateur, le titre. Et donc, ce parti était constamment attaqué par de véritables indépendantistes en Catalogne, qui est la Esquerra Republicana de Catalunya, qui est un parti indépendantiste historique qui date de la fin du 19e siècle et qui, au fil des élections locales et régionales, mangeait de la laine sur le dos du parti de centre-droit. À tel point que, de mandat, Artur Mas, le président du parti qui était le président sortant de la Catalogne, a proposé une entente électorale avec Esquerra Republicana en disant « on aura encore la majorité absolue et puis on oubliera la corruption ». Mais naturellement, les électeurs sont pas laissés, n'ont pas compris le message, à tel point que cette coalition électorale des deux partis de centre-droit et de centre-gauche n'avait pas la majorité absolue. Et les électeurs avaient élu une dizaine, les électeurs catalans avaient élu au Parlement européen une dizaine de députés ultra-indépendantistes, jusqu'au boutistes, anti-système, anti-capitalistes, oui, de l'extrême gauche, mais surtout europhobes, europhobes. Et pour garder la majorité, les deux partis du centre droit et centre gauche ont eu le soutien de la CUP, c'est la candidature d'unité populaire, le soutien comme l'accord de soutien le pendu. Vous voyez, oui, c'est une situation un peu difficile. Et donc, on est parti depuis 2 ans dans la course qui sera le plus grand indépendantiste en Catalogne.
Mais là, les cartes vont être rebattues, à votre avis, le 21 décembre ?
Les cartes vont être naturellement rebattues. Alors, on est dans l'incertitude la plus totale. Est-ce que les deux partis de centre-droit et de centre-gauche vont faire une coalition électorale ? Il y a des voix dans les deux camps qui s'élèvent contre cette entente électorale. La CUP a dit au lendemain de la destitution du gouvernement de Catalogne, nous ne prenons plus part à ces farces électorales. Nous, notre champ d'action, c'est la rue et non pas le Parlement. Donc on ne sait pas. Maintenant la CUP dit oui, mais on va peut-être être candidat. Bon, on ne sait pas. Les cartes seront rebattues. Je suis incapable de vous dire en quel sens elles le sont.
Il y a des gens qu'on n'entend plus dans ce débat, tout au moins en France. C'est l'Église catholique et le roi. Le roi, il a prononcé un discours une fois, vous l'avez critiqué d'ailleurs.
Oui.
Et parce qu'il n'a pas parlé effectivement des gens qui ont été tabassés.
Absolument.
Pourquoi on ne les entend pas ? Parce que finalement, ces gens-là, ils pourraient jouer un petit peu le rôle d'arbitre dans un pays.
Oui, médiateur,
qui
oui.
Se réfère à ses valeurs. L'Église catholique, ce n'est pas n'importe quoi en Espagne. Le roi non plus.
Le roi a été très maladroit dans sa première intervention et je crois qu'il regrette d'avoir parlé. Mais le roi a un rôle dans la Constitution qui est celui d'être le garant de l'unité du pays. Et c'était à ce titre-là qu'il s'était prononcé.
Justement. Bon.
L'unité du pays n'est plus en cause en Espagne. Elle n'est plus en cause pour le moment.
Et l'Église catholique ?
Écoutez, moi, l'Église catholique joue un rôle qui est difficile aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une église catholique en Espagne. Souvenez-vous que pendant la guerre civile, le clergé basque avait penché du côté de la République et non pas du côté des factieux franquistes.
Il y a une partie de l'Église catholique qui est pro-indépendantiste.
Il y a une partie de l'Église catholique qui est favorable à l'indépendance de la Catalogne.
Autre acteur qu'on a du mal à bien saisir, c'est l'Europe. Vous êtes président du mouvement européen du Loiret. On a l'impression que l'Europe a été très discrète dans cette affaire. Et alors Puigdemont, il va provoquer en allant se réfugier, entre guillemets, à Bruxelles. Est-ce que vous pensez que l'Europe a une bonne attitude dans cette affaire en disant « Nous, on reconnaît uniquement l'État espagnol et pas la Nouvelle République, si je puis dire, et non pas du centre-ouest, mais la Nouvelle République catalane. »
Alors moi, je suis pas de votre avis lorsque vous dites que l'Europe est discrète. L'Europe le dit très clairement et à chaque fois à travers ses trois institutions. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, l'a dit très fermement. Le président du Parlement européen l'a dit très fermement. Le président de la Commission européenne l'a dit très fermement. Malgré les insistances, les clins d'œil, les coups de coude, si on veut, vous savez, les coups de coude amicaux de Puigdemont à l'Europe en disant « Mais écoutez, faites quelque chose ». Alors les indépendantistes disent « Oui, mais il y a des voix qui s'élèvent ». Oui, naturellement, il y a des voix qui s'élèvent sur un Parlement de 700 et quelques députés. Vous avez des indépendantistes, hein, que ce soit en Écosse, que ce soit en Italie du Nord, que ce soit en Irlande, que ce soit même en Finlande. Vous savez, chaque pays est traversé par ses propres diversités.
Mais ça reste une minorité.
Ah ben, écoutez, pour le moment, celles qui sont autorisées à s'exprimer au nom de l'Union européenne sont les trois institutions dont je vous ai parlé. Et puis, le drame de M. Puigdemont, si je peux dire, et les indépendantistes, c'est qu'aucun État, aucun, ne s'est manifesté en faveur de ce que les gens de Madrid, et je vais peut-être taxer de madrilène, appellent un coup d'État des indépendantistes.
C'est plutôt un bon point pour l'Europe, je veux dire, pour les citoyens européens. qui ont reconnu là une autorité finalement.
Alors ils ont reconnu une autorité et ça il faut le porter au crédit de l'Union européenne et au bon jugement des citoyens européens comme vous dites Monsieur Christian Bidault. Mais je crois aussi que l'Union européenne ne souhaite pas être en présence de phénomènes comparables dans d'autres pays.
Ça fasse tache d'huile.
Écoutez, c'est quand même, vous savez, je le disais à certains de mes amis, dans un couple, parfois on a du mal à s'entendre et on n'est que deux. À 6, ça devient un peu plus compliqué. À 28, on a vu ce que ça donnait. Si on ouvrait la porte à ce type de création de nouveaux États, on pourrait être, objectivement, on pourrait être en présence d'une Europe à 90 ou... Bon, et là, c'est la fin de l'Europe. Et c'est ce que veulent les indépendantistes de la coupe qui sont des europhobes. Ils veulent la destruction de l'Union européenne.
Alors, il nous reste très peu de temps. Puis je demande qu'est-ce qui va se passer pour lui et ses ministres, hein, puisque on l'a dit en début d'émission, ils encourent quand même des peines de prison importantes, entre 15 et 30 ans de prison. Est-ce que la justice espagnole va aller jusqu'au bout, selon vous?
Alors, les ministres qui sont aujourd'hui incarcérés le sont à titre provisoire. Hein. La sentence émise par la juge... s'appuie sur trois éléments en disant, écoutez, il y a quand même un précédent. Monsieur Puigdemont et quatre ministres régionaux ont quitté l'Espagne. Les huit que je fais incarcérer de façon provisoire ont les moyens. Ont les moyens de quitter l'Espagne et ont les moyens de continuer leur action de sédition et de rébellion puisqu'ils ne veulent pas respecter le droit qui les régit, c'est-à-dire le droit espagnol.
Oui, mais ça veut dire et qu'il y a, va y avoir
il
un
y a,
procès
il y a, attendez, un neuvième cas qui a été examiné hier, c'est Santiago Villa, qui était ministre chargé des entreprises, qui lui s'est opposé au Parlement, qui a quitté le banc du gouvernement au Parlement lorsque le Parlement, puisque le Puigdemont ne l'a pas fait, a déclaré l'indépendance de la Catalogne. Il a quitté.
Répondre à la justice.
Voilà. Et il a, alors collaborer, le mot est un peu fort, il a répondu aux questions du juge. Les huit autres n'ont pas voulu répondre aux questions qui étaient posées par le juge. On est quand même dans une situation un peu surprenante. Écoutez, ces gens-là, que je sache, n'ont pas été torturés.
Oui, mais justement, qu'est-ce qui va se passer pour eux, très concrètement?
Et pour Puigdemont, surtout, est-ce qu'il peut être expulsé de Belgique vers l'Espagne, puisqu'il y a des accords entre les pays?
Aujourd'hui, je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas, mais il y aura probablement
un mandat d'arrêt européen.
La procédure du mandat d'arrêt européen est très simple. Il y a très peu de mandats d'arrêt européens qui n'aient pas été respectés. Alors maintenant, c'est la justice belge qui va jouer. Puisque le mandat d'arrêt déposé par l'État espagnol va être étudié par un juge belge.
Oui.
Et en fonction des risques que peut encourir M. Puigdemont en Espagne, eh bien le juge donnera l'autorisation au gouvernement belge d'extrader. Hein. Mais quels sont les risques que peut encourir M. Puigdemont en Espagne? D'être emprisonné? Mais écoutez, c'est le risque qu'il a fait courir à ses collègues quand même. Hein. Il faut être quand même réaliste. Si le vice-président Oriol Junqueras et les sept autres ministres régionaux ont été incarcérés, c'est parce qu'il y a eu le précédent de Puigdemont qui avait quitté le territoire espagnol.
Mais c'est un risque réel ou aujourd'hui c'est surtout pour faire pression?
Ah non, moi je crois que c'est un risque réel. C'est un risque réel pour Puigdemont d'être incarcéré s'il rentre sur le territoire espagnol.
Mais ça revient à ce que vous disiez au début, il va être victimisé, il va passer pour un martyr.
Mais
et donc
il va
renforcer...
passer pour un martyr. Ouais. Et c'est ce que les partis non indépendantistes et les citoyens non indépendantistes comme moi reprochons à mes amis indépendantistes. J'ai beaucoup d'amis indépendantistes en Catalogne, c'est de jouer les victimes.
Et il y a une fracture réelle aujourd'hui en Catalogne?
La fracture est réelle. Et je crains qu'elle soit durable. C'est ça qui me rend très triste, parce que cette fracture, elle traverse la société et elle traverse les familles. Je peux vous l'assurer. Moi, j'ai mes cousins, mes neveux, et c'est terrible parce qu'on continue naturellement. Il y a le lien familial qui joue, mais vous savez, on est un peu dans le cas de figure de l'affaire Dreyfus. Vous savez, surtout n'en parlons pas. Et puis l'autre dessin, c'était ça y est, ils en ont parlé. Alors quand on n'en parle pas. Tout va bien. Hein, tout va bien. Mais dès qu'on commence à parler de l'indépendance de la Catalogne, la situation de l'indépendance, tout va mal.
On s'aperçoit quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu de réplique dans les régions ou chez les autonomistes européens. On pense aux Basques, aux Bretons ou aux Catalans français.
Non, il n'y a pas eu de réaction. Les Catalans français, enfin, il y a un parti indépendantiste catalan qui proposait d'accueillir M. Puigdemont à Perpignan.
Très minoritaire.
Voilà. Eh bien, on vous réinvitera parce qu'il y aura sans doute encore d'autres épisodes à ce feuilleton. Merci beaucoup François Saragossa, merci beaucoup Christian Bidot. C'est la fin de cette émission, mais vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur le site de Maxcentre en tapant maxcentre.fr. Bonne journée à tous et bon week-end.